à l'aide de petits cartons de vote qu'Anthony va distribuer. Et ça sera une prédication interactive. Alors préparez-vous déjà, il faut être attentif. Il faut prendre un carton par rang. Puisqu'on parle d'aimer son prochain, on ne va pas voter chacun pour soi, mais on vote ensemble. Donc un carton par rang. Et puis si mon collègue David est d'accord d'aller apporter quelques cartons supplémentaires à la galerie en haut, si mon mari est d'accord de donner quelques cartons supplémentaires à David. Voilà. Est-ce que chaque rang a un petit carton ? C'est bon en bas ? Ouais, où ça vient ? Et puis en haut, ça devrait ? Voilà. Et ce matin, donc, on va vivre ensemble ce temps de prédication à travers un jeu. Si je vous affiche ceci, vous allez peut-être reconnaître de quel jeu il s'agit. Oui, tout le monde hoche de la tête quasiment. Voilà. Donc on va faire un jeu sur le mode « Qui veut gagner des millions ?» donc.
Il n'y aura pas des millions à la sortie, hein. Désolé, on n'a pas ça. Mais il y aura un petit quelque chose pour vous à la sortie, je vous promets. Alors, je vous propose de lire le texte qui va venir nourrir notre réflexion ce matin. Il se trouve dans le Nouveau Testament, dans un des quatre évangiles, et à savoir le plus court, l'évangile de Marc. Et je vous propose donc de lire Marc 12, 28 à 34. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il est un, et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui poser des questions. Amen.
Dans ce texte, on voit deux personnages mis en scène. Le premier, Jésus, après une discussion mouvementée avec les Sadducéens, comme nous dit le texte, sur la question de la résurrection des morts, et un scribe qui s'approche de lui pour lui poser des questions. Ce qui est assez étonnant, c'est que les scribes, dans les évangiles, comme les pharisiens ou les sadducéens, ont toujours une image négative. Ils font partie du peuple qui a été incrédule face à l'arrivée de Jésus, et ils sont souvent vus de façon négative dans les évangiles. Mais dans ce texte, le scribe qui s'approche porte une image positive, parce qu'il vient honnêtement vers Jésus pour poser des questions, pour chercher des réponses à ces questions.
Alors là, la question, eh bien, c'est de savoir quel est le premier ou le plus grand des commandements. Alors si vous lisez un petit peu dans ce qu'on appelle la littérature rabbinique, ensuite on va souvent poser cette question. Vous savez que le judaïsme va développer tout un tas de commandements, et on va bien se demander, au final, il y a plein de commandements, le judaïsme va en développer 613, donc ils vont dire, quel va être le plus grand commandement? Et ça va être la question qui va être posée là, d'où viennent les deux commandements d'amour?
Donc c'est la question que nous vous posons à vous.
C'est ça le jeu. Alors, d'où viennent les deux commandements d'amour qui sont dans le texte, qui ont été lus? Premièrement, la réponse bleue de l'Ancien Testament, ou la réponse orange, un de l'Ancien Testament et l'autre de Jésus lui-même. Alors, on va vous laisser... Alors, hop, encore deux secondes. On vous laisse un petit temps pour réfléchir. N'hésitez pas à dialoguer dans les rangs, parce que vous avez le droit à une réponse par an. Ça y est, vous êtes parti, je ne vous tiens plus là. Ça marche ?
Ça va, on entend ? Ah, ça Ah, il y en a là, sinon. Ah ouais, voilà.
Attendez, attendez avant de répondre, attendez. Je vais vous demander si c'est votre dernier mot avant.
C'est bon, je pense, non ?
C'est bon, vous êtes au point ? Très bien. Alors, d'où viennent les deux commandements d'amour ? Réfléchissez bien, parce que c'est votre dernier mot. Vous pouvez lever vos cartons. Oh, purée. Ah oui, il y a deux couleurs, Il y a les bleus et il y a les rouges. Voilà. Super. Alors, les bleus de l'Ancien Testament, donc tu dirais combien, hein ? Il y a plus d'orange, mais il y a quand même
beaucoup
pas
d'orange.
Beaucoup d'orange, je dirais un tiers, deux tiers, un tiers de bleu et deux tiers d'orange. Alors, la réponse de suite.
Et la bonne réponse était en fait la réponse bleue. Les deux commandements viennent de l'Ancien Testament.
Alors, il va falloir se contenir hein, pour voilà. Les réponses. Maîtrisez votre joie ou votre déception pour qu'on puisse avoir l'occasion de parler et donner un petit complément.
Parce qu'il y aura plusieurs questions. Alors, c'est vrai que c'était la réponse bleue parce que le premier commandement d'aimer Dieu vient de Deutéronome 6, 4 et 5. Donc, le Shema d'Israël. Donc, pas n'importe quel commandement. En plus, ce commandement qui a imprégné toute la tradition juive. Et puis l'autre commandement, tu aimeras ton prochain, se trouve aussi dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 19, verset 18. Je crois que c'était... Ah, voilà. Voilà. Donc ils s'ancrent dans l'histoire d'Israël, ils font partie de l'histoire d'Israël depuis toujours. Et ces lois, elles ont été là pour Israël depuis le début. Et comme le christianisme, notre christianisme, tire ses racines du judaïsme, pour nous aussi, ces commandements sont là depuis toujours, depuis toujours.
Alors, le premier commandement, eh bien, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, renvoie à l'être entier, c'est-à-dire aimer Dieu de tout son être, avec son corps physiquement, mais aussi avec tout ce qui anime l'homme, son âme, sa pensée. Le deuxième commandement, si on devait le résumer, eh bien, c'est d'être soucieux du bien de l'autre, autant qu'on peut l'être pour notre propre bien. Alors, c'est quelque chose que... On va discuter tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, aimer l'autre comme toi-même ? On discutera tout à l'heure. Et bien là, Jésus réactualise ces deux versets de l'Ancien Testament, donc, et les met côte à côte pour la première fois. Alors, à la question était, quel est le plus grand commandement ? Et bien, face à la question du scribe qui veut savoir quel est le plus grand commandement, bien Jésus en donne deux. Alors, on peut se demander... Est-ce que Jésus est indécis ? Est-ce qu'il ne sait pas quel est le... Parmi ces deux commandements, quel est le plus grand ? Il décide d'en donner deux ? Je ne pense pas. Je pense plutôt que l'amour de Dieu est indissociable de l'amour de notre prochain. Dieu a tout donné. Hein, vous connaissez probablement ce verset de Jean 3,16, hein, si je vous le dis là. Vous... Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On le connaît tous, celui-là. Eh bien, nous puisons, en réalité, dans l'amour de Dieu, la force d'aimer le prochain, d'aimer celui qui est devant nous.
Alors, le scribe, il entend cette réponse de Jésus, et puis il se l'approprie d'une certaine manière, comme on l'a lu tout à l'heure. Et sa lecture, la lecture qu'il en fait, son interprétation nous offre à nous une lunette de lecture, de comment entendre ces deux commandements. Alors, c'est la prochaine question qu'on va vous poser. Le scribe, justement, lui, place l'amour de Dieu au-dessus des holocaustes et des sacrifices. C'est ce qu'il dit dans le texte. En fait, il faut aimer Dieu plus que les holocaustes et les sacrifices. Est-ce que cela vous paraît normal pour l'époque ? C'était déjà écrit dans l'Ancien Testament, pardon. Ou ça vous paraît révolutionnaire, car les sacrifices avaient pris beaucoup d'importance dans le judaïsme, au temple ? À vos
c'est
rangs,
dur, hein.
À vos
là, vous réfléchissez avant de mettre.
Voilà, c'est un peu plus dur.
C'est un peu plus dur.
Et on vous laisse réfléchir.
On vous laisse encore réfléchir et dialoguer.
C'est bon.
C'est bon ? Alors, votre dernier mot. Je vais voir les cartons. Ah, c'est encore partagé, hein. C'est beau ça. Bleu et orange. Bon, là, on n'est pas au million encore. Hein. Bleu et orange, quasiment moitié-moitié. Hein. Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un qui a répondu avec la réponse bleue aimerait dire pourquoi il a répondu avec la réponse bleue ?
Parce que le schéma, ça faisait quand même partie de leur, voilà, de ce qu'ils récitaient régulièrement, le fait d'aimer Dieu par-dessus tout. Et puis parce qu'il y a un autre texte dans Ésaïe où Dieu avait déjà parlé du jeûne qu'il cherchait et qui n'était pas les sacrifices et les holocaustes, mais justement une vie en accord avec cet amour de Dieu.
Ok, merci. Réponse intéressante. Je ne vais pas dire que c'est la bonne, hein. Je vous laisse encore le suspense. Alors, quelqu'un qui a levé le carton orange aimerait donner quelques arguments.
Pour moi, c'est révolutionnaire, parce que les sacrifices avaient pris le pas sur l'Ancien Testament. Ils montaient souvent au temple et il y avait beaucoup plus de sacrifices que d'amour à ce moment-là.
Ok. Eh bien, on va voir que, en fait, la réponse bleue et la réponse orange étaient vraies. Les deux.
C'était
on vous a bien eu, hein. Il ne fait pas des blagues comme ça sur le plateau quand il y a 1 million d'euros ou de francs en jeu, hein, mais encore heureux. Pourquoi ? Il fallait le tenir comme ça, oui. Eh bien oui, parce que la réponse du scribe est très surprenante pour l'époque, parce que effectivement, dans le judaïsme à l'époque, les sacrifices avaient pris beaucoup d'importance. Et il faut savoir que l'une des maximes de l'époque, un des dictons fameux de l'époque, était « Le monde est construit sur 3 fondements ». Le premier sur la Torah, c'est-à-dire sur l'Ancien Testament, l'autre sur l'offrande pour Dieu, et l'autre sur la bienfaisance, hein, sur disons, l'amour, ce qu'on a traduit dans le Nouveau Testament par amour. Donc les trois domaines étaient mis côte à côte. Pour autant, pour le scribe, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il met l'amour au plus grand que tout. Il a compris finalement le message de Jésus, que Jésus était là pour nous dire que l'amour était plus important que l'Holocauste et les sacrifices. Et en fait, en disant cela, il fait allusion à un passage de l'Ancien Testament, et même à deux, à 1 Samuel 15-22 qui dit, est-ce qu'on l'a mis ou pas ?
Non.
Non. Alors, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, à savoir l'amour vaut mieux que tout cela. Ou encore en Osée 6-6, car j'aime la pitié. La piété, pardon, pas la pitié, hein, non. J'aime la piété, à savoir l'amour, la bienveillance, et non les sacrifices, nous dit le texte d'Osée. Donc, un petit peu comme celui d'Ésaïe. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Donc, c'était déjà présent dans l'Ancien Testament, mais là, il semble que le scribe a compris l'Ancien Testament et que face à Jésus, il met l'amour au-dessus.
Donc, c'était aussi révolutionnaire en même temps, puisqu'il réinterprète des versets de l'Ancien Testament en mettant l'amour au premier plan. Alors lui, dans sa réponse, il nous offre son actualité, en fait, les holocaustes et les sacrifices. Pour lui, c'est ce qui prenait beaucoup de place dans sa religion. Et puis il réalise, l'amour est plus grand que ces choses-là. Mais pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a comme sens de dire, oui, l'amour est plus grand que les holocaustes et les sacrifices ? De toute façon, on n'en fait pas. Donc ça serait facile pour nous de dire ça, mais comment on pourrait le tirer un lien pour notre vie aujourd'hui, à quelle loi de notre actualité pourrait s'appliquer ce commandement d'amour ? On voulait vous inviter à lire un autre texte où Paul parle aussi d'amour en plaçant l'amour au-delà des 10 commandements en fait, qu'il résume assez rapidement. C'est en Romains 13, 8 à 10, le texte va s'afficher. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi.
Alors, ce qui est assez intéressant dans ce texte et de ce qu'on peut voir de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, c'est qu'ici, il n'est plus question, de, comme dans l'Ancien Testament, des 10 commandements où tu ne feras pas ceci, mais il est question tout simplement d'amour, d'une action qui engage. On ne dit plus « voilà ce qu'il ne faut pas faire hein, », quelque part, mais on dit « voilà ce qu'il faut faire ». L'amour est quelque chose qui nous engage, on ne doit plus être sur la défensive d'une peur de « il ne faut pas commettre ceci, cela », mais au contraire, l'amour engage, on engage quelque chose dans notre relation envers l'autre. Et le texte nous dit qu'en cela, on accomplit la loi, car en aimant, eh bien, ça revient à respecter les lois de Dieu qui sont en faveur de chacun, parce qu'il les aime et nous apprend à aimer les autres. L'amour n'est pas passif, hein, il ne suffit pas de rester bien gentiment chez soi et de ne rien faire, et comme ça, on sait qu'on respecte les commandements de Dieu, mais l'amour est quelque chose qui nous engage, où on doit aller vers l'autre, engager une relation, prendre le risque d'aimer. Alors on va passer maintenant à la troisième question. Vous allez encore pouvoir discuter et faire du bruit. Qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile dans l'amour? Tout d'abord, la réponse bleue, d'aimer son prochain. Là, vous allez voir, vous allez être encore plus divisé. Ou l'orange ou rouge, à savoir l'aimer comme soi-même. C'est dur hein, pour un dimanche matin, là. Hein. Allez, on vous laisse réfléchir et puis vous nous donnerez aussi quelques arguments.
Ça discute, ça a l'air plus dur comme question. Il y a des avis partagés. Est-ce que vous avez pu vous mettre d'accord dans votre rang sur une réponse à donner? Pas facile de se mettre d'accord avec les autres. Hein. On pratique l'amour du prochain, là aussi. Alors, je vous propose de lever vos cartons avec votre réponse choisie.
Ah, il faut faire ça.
Il y en a plein qui tournent de cartons. Bon, il y a beaucoup d'oranges quand même, beaucoup de cartons virevoltants, et puis quelques bleus aussi. Alors, est-ce que quelqu'un qui a levé un carton bleu voudrait expliquer pourquoi ?
Nous, on a mis bleu, parce qu'aimer son prochain, c'est plus facile que si on ne s'aime pas soi-même. Comment peut-on aimer l'autre ? Alors, j'ai dit qu'on allait mettre bleu. Parce qu'il faut s'aimer soi-même avant d'aimer.
D'accord. Est-ce que quelqu'un qui a levé un carton orange aimerait exprimer la raison?
Bah, aimer son prochain, c'est pas très implicatif parce que ça détermine pas la puissance de l'amour. On peut aimer un peu, beaucoup, alors que aimer comme soi-même, je pense que c'est beaucoup plus implicatif.
Mm-hmm. Ouais, merci. Est-ce que monsieur qui avait levé la main aussi, ouais, pour le carton orange voulait exprimer quelque chose?
Oui, l'aimer comme soi-même, c'est dire c'est presque 24 heures. L'aimer le prochain, c'est pas 24 heures.
D'accord. Et finalement, ceux qui avaient des cartons virevoltants, qui n'avaient pas décidé pourquoi, est-ce que vous voulez expliquer pourquoi vous hésitiez entre les deux réponses?
Nous, on hésitait entre les deux réponses parce qu'on n'était pas d'accord. Mais parce que moi, je pense que aimer, c'est déjà quelque chose de compliqué en soi, parce qu'en fait, la façon dont on est aimé ou dans le monde nous apprend à aimer, que ce soit nous ou notre prochain, je ne crois pas que c'est la façon dont Dieu nous appelle à aimer. Donc je crois que la difficulté est déjà dans le fait d'aimer et de vraiment trouver en Dieu comment lui veut qu'on aime, qu'on soit même ou les autres.
Merci. On aurait dû faire une réponse encore d'une autre couleur avec juste aimer. Merci.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est une question compliquée, hein, auquel on va tenter de répondre. Vous avez déjà donné quelques éléments. Ce qu'on peut dire, c'est que l'amour de Dieu semble indissociable de l'amour du prochain. Bien oui, parce que les deux ne forment qu'un seul commandement, au fond, parce que aimer Dieu, c'est rechercher sa volonté. Et sa volonté, eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est que tout homme ou toute femme soit sauvé, car chaque individu, ben, c'est sa création, c'est lui qui l'a créé. Son enfant, c'est lui qui l'aime. Alors, chacun peut entrer dans son royaume, et au final, hein, qui serions-nous pour choisir lequel aimer ou pas ? C'est pas, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas une nouveauté, encore une fois, du Nouveau Testament. Bien des choses étaient en germe dans l'Ancien Testament. Effectivement, on regardait bien des textes de l'Ancien Testament où il est question de l'amour du prochain, de l'amour du faible, de la veuve, de l'esclave, de l'étranger. Bien des nombreuses choses qui étaient déjà en germe dans l'Ancien Testament et qui visent à défendre les droits de l'opprimé.
Alors c'est vrai aussi que aimer comme soi-même représente toute une difficulté en soi. Aimer comme soi-même, c'est faire en sorte, agir pour permettre à l'autre d'atteindre son propre bien-être, se préoccuper de l'autre tout autant qu'on se préoccuperait de soi pour atteindre un certain bien-être. Et puis, ça pose déjà une difficulté en soi parce que parfois, on est déçu de soi-même, parfois, on a un manque d'amour pour soi-même, pour son corps, on se trouve pas à la hauteur, pas assez bien, pas assez beau, pas assez jeune, pas assez riche. Il y a beaucoup de choses. Et puis finalement, aimer les autres comme soi-même, ça peut être difficile si déjà pour soi-même, on a du mal à trouver une valeur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on souhaite au prochain, d'avoir ce sentiment de manque d'estime, évidemment. Mais pour autant, je pense que chacun, on est toujours en recherche d'horizons meilleurs, toujours en recherche d'une communion plus grande avec Dieu. Et peut-être que c'est ça ce qu'on aimerait souhaiter à notre prochain, peu importe où il se situe, peu importe quel amour il a pour lui-même, de continuer à chercher cet horizon meilleur et cette communion avec Dieu. Et finalement, c'est aussi un peu ce qu'on retrouve dans la réponse du scribe qui dit ouais, l'amour de Dieu, l'amour du prochain est au-delà des sacrifices et des holocaustes, puisque ce qu'il faisait, les sacrifices, les holocaustes, c'était en partie pour être lui-même bien avec Dieu, pour trouver un pardon avec, aux yeux de Dieu et pour être en communion avec Dieu. Et peut-être que dans cette phrase aussi, il lui réalise l'amour du prochain, c'est au-delà de ce que moi je peux faire pour ma relation avec Dieu. C'est peut-être tendre une main au prochain pour que lui aussi puisse grandir dans sa relation avec Dieu, approfondir sa connaissance, son amour, sa relation avec Dieu. Alors revenons pour terminer sur la conclusion de ce texte. Jésus qui dit à ce scribe, eh bien tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Phrase un peu mystérieuse et qui rejoint aussi notre série de prédications de ce semestre 2016. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Alors c'est la dernière question qu'on aimerait vous poser ce matin. En quoi le scribe n'est-il pas loin du royaume de Dieu ? Qu'est-ce que ça signifie au fond ? Première réponse, réponse bleue, c'est parce qu'il s'est approprié les propos de Jésus. Deuxième réponse, réponse orange, c'est parce qu'il a compris les lois de l'Ancien et du Nouveau Testament. Qu'en pensez-vous ? On vous laisse encore une fois réfléchir pour cette dernière question.
Est-ce que vous êtes au clair ? Non ?
Plus ça va, plus c'est difficile, en fait.
Alors, Est-ce que vous pouvez lever vos cartons ? Bleu, orange, bleu, pas mal de bleu, je dirais. Non, deux tiers, ouais, peut-être moitié. Encore moitié. Ok. Alors, bah, je vais vous donner quelques éléments de réponse. Bien, on peut dire que est-ce que le scribe a compris les lois de l'Ancien et du Nouveau Testament ? Certainement, il est scribe et il a dû comprendre en tout cas les lois de l'Ancien Testament, c'est sûr. Mais ce qui est frappant ici, c'est qu'il ne répète pas seulement les propos de Jésus, il ne fait pas que le répéter, il applique ce que vient de dire Jésus directement à sa propre vie en l'appliquant aux holocaustes et aux sacrifices. On peut dire qu'en fait, il fait preuve d'humilité, il veut apprendre de son maître. Donc en ça, je pense que la réponse bleue, hein, je n'ai pas dit, me semblait la meilleure option, dans le sens où il fait sien les commandements de Jésus. Il accepte aussi que le propos de Jésus dépasse les rites de sa propre religion, à savoir les holocaustes, les sacrifices. Et en fait, quelque part par là, il commence à accepter l'autorité de Jésus sur sa propre vie. C'est ce qui, en cela, qu'il fait qu'il s'approche du royaume. Approche, j'ai dit. Pas entrer dans le royaume.
Oui, justement, ce qui est assez frappant dans ce texte, c'est que Jésus lui dit « Tu n'es pas loin du royaume », mais il ne lui dit pas « Ça y est, tu es entré dans le royaume, c'est bon, repose-toi, c'est gagné ». Non, en fait, cette phrase est assez étonnante. D'où vient-elle ? Pourquoi ce scribe est pas loin, mais pas encore entré ? Alors, je ne sais pas si on a une réponse ce matin, mais en tout cas, on peut peut-être déduire qu'il ne suffit pas de comprendre ses commandements, même de les comprendre pour sa vie, mais il faut aussi savoir les appliquer dans sa vie. Il faut placer sa foi en Jésus, mettre sa volonté en œuvre dans notre vie, et comme ça on s'approche d'autant plus du royaume. On peut aussi penser à un texte qui vient peu avant dans le même évangile, juste deux chapitres avant, où Jésus dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, ils se dirent les uns aux autres « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Donc c'est impossible aux hommes d'entrer par eux-mêmes dans le royaume, mais c'est possible à Dieu. Alors, peut-être un autre élément de réponse ici. C'est Dieu qui fait entrer dans le royaume, alors que nous ne faisons que nous en approcher, à l'image de ce scribe. Nous nous rapprochons, nous ne nous trouvons pas loin, mais Dieu, lui, fait entrer dans le royaume. Et puis, bien sûr, je pense qu'il y a encore cette notion du « déjà et pas encore du royaume » qu'on a déjà évoqué aussi dans cette série de prédications. Le royaume qui s'est approché à travers Jésus, mais qui ne sera là vraiment qu'à la fin des temps, au retour de Jésus. Et voilà, cette entrée dans le royaume finalement est toujours une action future du salut qui appartient à Dieu et que dont nous pourrons pleinement jouir à la fin des temps au retour de Jésus.
On peut peut-être aussi dire que le scribe est peut-être invité à faire un pas de plus là-dedans, dans cette histoire. Et nous, là, dans cette histoire, est-ce que nous aussi nous sommes invités à faire un pas de plus ? Est-ce que nous ne sommes pas nous aussi invités à reformuler peut-être les lois de l'Ancien Testament, les lois que nous avons apprises de nos parents, etc. Des lois, des fois, qu'on connaît par tradition, peut-être à les reformuler pour notre propre vie et à ainsi s'engager dans l'amour de Dieu. L'Évangile n'est pas simplement une loi ou une tradition chrétienne, mais c'est quelque chose que nous devons nous approprier dans nos propres vies. Et je pense que dans tous les cas, même si nous les avons acceptées un jour, ces lois-là, les lois du royaume, de l'amour du prochain, de l'amour de Dieu, nous sommes tous invités ce matin à faire un pas de plus, à aller plus loin dans cet engagement où je ne pense aucun d'entre nous pourrait prétendre avoir atteint le sommet de l'amour de Dieu et le sommet de l'amour du prochain. Nous pouvons tous faire des progrès là-dedans. Et je pense que nous sommes aussi invités à propager ce royaume, propager cette bonne nouvelle autour de nous, un amour possible parce qu'il nous vient d'en haut, tout d'abord. Nous n'avons aucun mérite dans cette histoire. C'est Dieu qui nous a aimés le premier, effectivement, en envoyant son Fils Jésus mourir sur la croix pour nous, pour nos péchés, pour qu'il enlève de nous cette culpabilité qui était sur nous. Alors j'aimerais nous laisser un temps de réflexion, peut-être un temps un peu plus silencieux, où on peut se réapproprier ces deux commandements, réfléchir sur nos propres vies, où est-ce qu'on en est dans l'amour de Dieu, où est-ce qu'on en est dans l'amour du prochain. C'est chacun pour nous-mêmes, ça nous appartient. Et se réapproprier ces commandements aujourd'hui pour nous-mêmes. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Tu nous aimes d'un amour inconditionnel et si grand. Et nous voulons, Seigneur, te dire en retour combien nous t'aimons. Nous voulons t'aimer de toute notre, pensée, de toute notre âme, de toute notre force, de tout ce qui nous anime, Seigneur. Aide-nous à grandir dans cet amour pour toi, dans cette fidélité. Et Seigneur, que nous ne gardions pas tout cet amour que nous avons reçu de toi pour nous, pour notre propre confort, pour notre propre bien, mais que nous osions sortir de notre confort, de ces commandements que nous avons reçus, pour les donner plus loin, les donner à notre prochain, à celui qui a besoin d'amour, à celui qui est sur notre route. Merci Seigneur, parce que effectivement nous avons à grandir, mais c'est toi qui nous permet cela, c'est toi qui nous permet de pouvoir propager cet amour, parce que nous avons tant reçu de toi, Seigneur. Aide-nous à grandir en toi, à grandir dans notre relation avec toi et avec les autres, Seigneur. Amen.